André, chapitre 5. Henriette essaya, en effet, pour complaire à Joseph Marteau, dont elle aurait été bien aise de rendre sérieuses les protestations d'amour. Du reste, elle feignait d'admirer beaucoup la vertu de Geneviève, et, par esprit de corps, elle ne cessait de vanter la supériorité de cette grisette, en sagesse et en esprit, sur toutes les dames de la ville. Mais intérieurement, elle n'approuvait pas trop la rigidité excessive de sa conduite. Elle croyait que le bonheur n'est pas dans la solitude du cœur, et son amitié pour elle la portait à lui conseiller sans cesse d'écouter quelques galants. Elle fut forcée de dissimuler avec Geneviève pour la décider à venir chez Madame Marteau. La jeune fleuriste ne se rendit qu'en recevant l'assurance de n'y rencontrer que les filles de la maison et les ouvrières d'Henriette. Pour aider à ce mensonge, Joseph, sans rien dire à André, le mena faire un tour de promenade dans la ville, et ne rentra que lorsqu'il jugea Geneviève et Henriette arrivées. Ils les rejoignirent dans le petit jardin qui était situé derrière la maison. Geneviève donnait le bras à la grand-mère, qui s'appuyait sur elle d'un air affectueux en lui disant « Viens ici, mon enfant ». Je veux te montrer mes émérocales. Tu n'as jamais rien vu de plus beau. Quand tu les auras regardées, tu voudras en faire pour le bouquet de Justine. C'est une fleur du plus beau blanc. Tiens, vois. » Geneviève ne s'apercevait pas de la présence des deux jeunes gens. Ils marchaient doucement derrière elle, Joseph faisant signe aux autres jeunes filles de ne pas les faire remarquer. Geneviève s'arrêta et regarda les fleurs sans rien dire. Elle semblait réfléchir tristement. « Eh bien, » dit la vieille, « est-ce que tu n'aimes pas ces fleurs-là ?»« Je les aime trop, » répondit Geneviève d'un petit ton précieux rempli de charme. « C'est pour cela que je ne peux pas les copier. Ah, voyez-vous, madame, je ne pourrai jamais. » Comment oserais-je espérer de rendre cette blancheur-là et le brillant de ce tissu? Du satin serait trop luisant, la mousseline serait trop transparente. Oh, jamais, jamais! Et ce parfum, qu'est-ce que c'est que ce parfum-là? Qui l'a mis dans cette fleur? Où en trouverais-je un pareil pour celle que je fais? Le bon Dieu est plus habile que moi, ma chère dame. » En parlant ainsi, Geneviève, s'appuyant sur le vase de fleurs, pencha sur les émérocales son front aussi blanc que leur calice, et resta comme absorbée par la délicieuse odeur qui s'en exhalait. C'est alors seulement qu'André put voir son visage, et il reconnut sa dame d'amour, comme il l'appelait dans ses pensées, en souvenir des deux vers de la romance. Geneviève ne ressemblait en rien à ses compagnes. Elle était petite et plutôt jolie que belle. Elle avait une taille très mince et très gracieuse, quoiqu'elle se tînt droite à ne pas perdre une ligne de sa petite stature. Elle était très blanche, peu colorée, mais d'un ton plus fin et plus pur que la plus exquise rose musquée qui fût sortie de son atelier. Ses traits étaient délicats et réguliers, et quoique son nez et sa bouche ne fussent pas d'une forme très distinguée, l'expression de ses yeux et la forme de son front lui donnaient l'air fier et intelligent. Sa toilette n'était pas non plus la même que celle des grisettes de son pays. Elle se rapprochait des modes parisiennes, car elle avait étudié son art à Paris. Aussi, ses compagnes toléraient beaucoup d'innovations de sa part. Seule dans toute la ville, elle se permettait d'avoir un tablier de satin noir, et même de porter dans sa chambre un tablier de foulard, ce qui, malgré toute la bienveillance possible, faisait bien un peu jaser. Elle avait hasardé de réduire les immenses dimensions du bonnet distinctif des artisanes de L. Elle convenait bien que sur le corps d'une grande femme, cette fanfreluchérie de rubans et de dentelles ne manquait pas d'une grâce extravagante. Mais elle objectait que sa petite personne eût été écrasée par une semblable auréole, et elle avait adopté le petit bonnet parisien à ruches courtes et serrées, dont la blancheur semblait avoir été mise au défi par celle du visage qu'elle entourait. Elle avait en outre une recherche de chaussures tout à fait ignorée dans le pays. Elle tricotait elle-même, avec du fil extrêmement fin, ses gants et ses bas à jour. André reconnut à ses mains des gants pareils à celui qu'il possédait. Il admira la petitesse de ses mains et celle des pieds, que chaussaient d'étroits souliers de prunelles à cothurnes rigidement serrés. La robe, au lieu d'être collante comme celle de ses compagnes, était ample et flottante, mais elle dessinait une ceinture dont une fille de 10 ans eût été jalouse, et à travers la percale fine et blanche, on devinait des épaules et des bras couleur de rose. Lorsqu'elle aperçut Joseph, qui lui adressa le premier la parole, elle le salua avec une politesse froide, mais Joseph avait le moyen de l'adoucir. « Oh, mademoiselle Geneviève, lui dit-il, j'ai bien pensé à vous hier à la chasse. Imaginez qu'il y a auprès de l'étang du château fondu des fleurs comme je n'en ai jamais vues. Si j'avais pu trouver le moyen de les apporter sans les faner, j'en aurais mis pour vous dans ma gibecière. » « Vous ne savez pas ce que c'est ?»« Non, en vérité, mais cela a 2 pieds de haut. Les feuilles sont comme tachées de sang. Les fleurs sont d'un rose clair avec de grandes taches de lie de vin. On dirait de grandes guêpes avec un dard, ou de petites vilaines figures qui vous tirent la langue. J'en ai ri tout seul à m'en tenir les côtes en les regardant. » « Voilà une plante fort singulière, » dit Geneviève en souriant. « Je crois, dit timidement André, autant que mon peu de savoir en botanique me permet de l'affirmer, que ce sont des plantes orphides, appelées par nos bergers herbes aux serpents. »« Ah, pourquoi ce nom-là ? » dit Geneviève. « Qu'est-ce que ces pauvres fleurs ont de commun avec ces vilaines bêtes ?»« Ce sont des plantes vénéneuses, » répondit André. Et qui ont quelque chose d'affreux en elles, malgré leur beauté. Ces taches de sang d'abord, et puis une odeur repoussante. Si vous les aviez vues, vous auriez trouvé quelque chose de méchant dans leur mine, car les plantes ont une physionomie comme les hommes et les animaux. « C'est drôle ce que tu dis là, » reprit Joseph, « mais c'est parbleu, vrai. Quand je le dis que ces fleurs m'ont fait l'effet de me rire au nez, et que je n'ai pas pu m'empêcher d'en faire autant. D'autant plus que pour les cueillir dans cet endroit, répondit André, il faut courir un certain danger. L'étang de Château Fondu a des bords assez perfides. Où prenez-vous ce Château Fondu ? Demanda Henriette. Auprès du château de Moran, répondit Joseph. Oh, c'est un endroit singulier et assez dangereux, en effet. Figurez-vous un petit lac au milieu d'une prairie. L'eau est presque toute cachée par les roseaux et les joncs. Cela est plein de sarcelles et de canards sauvages. C'est pourquoi j'y vais chasser souvent. Quand tu dis chasser, tu veux dire braconner, interrompit André. Soit, je vous disais donc qu'on ne voit presque pas où l'eau commence, tant cela est plein d'herbes. Sur les bords, il y a une espèce de gazon mou où vous croyez pouvoir marcher. Pas du tout. C'est une vase verte où vous enfoncez au moins jusqu'aux genoux, et très souvent jusque par-dessus la tête. La tradition du pays, reprit André, est qu'autrefois il y avait un château à la place de cet étang. Une belle nuit, le diable, qui avait fait signer un pacte au châtelain, voulut emporter sa proie et planta sa fourche sous les fondations. Le lendemain, on chercha le château dans tout le pays, et il avait disparu. Seulement, on vit à la place une mare verte, dont personne ne pouvait approcher sans enfoncer dans la vase, et qui a gardé le nom de Château Fondu. « Voilà un conte comme je les aime, » dit Geneviève. « Ce qui accrédite celui-là, » reprit André. C'est que dans les chaleurs, lorsque les eaux sont basses, on voit percer çà et là des amas de terre ou de pierres verdâtres que l'on prend pour des créneaux de tourelles. « Je ne sais pas ce qu'il en est, » dit Joseph, « mais il est certain que mon chien, qui n'est pas poltron, qui nage comme un canard et qui est habitué à barboter dans les marais pour courir après les bécassines, a une peur effroyable du château fondu. Il semble qu'il y ait là je ne sais quoi de surnaturel qui le repousse. Je le tuerais plutôt que de l'y faire entrer. « C'est un endroit tout à fait merveilleux, » dit Geneviève. « Est-ce bien loin d'ici ?»« Oh, mon Dieu, non !» dit André, qui mourait d'envie de rencontrer encore Geneviève dans les prés. « Pas bien loin, pas bien loin !» dit Joseph. « Il y a encore 3 bonnes lieues de pays. Mais voulez-vous y aller, mademoiselle Geneviève ?»« Non, monsieur, c'est trop loin. »« Il y aurait un moyen !» Je mettrai mon gros cheval à la patache et... Oh oui, oui! S'écrièrent Henriette et ses ouvrières. Menez-nous au château fondu, monsieur Joseph! Et nous aussi! S'écrièrent les petites sœurs de Joseph. Nous aussi, Joseph! En patache! Ah, quel plaisir! J'y consens, si vous êtes sage. Voyons, quel jour? Pardine, c'est demain dimanche, dit Henriette. « C'est juste. À demain, donc. Vous y viendrez avec nous, mademoiselle Geneviève. »« Oh, je ne sais, » dit-elle avec un peu d'embarras. « Je crois que je ne pourrai pas. Je ne vous suis pas moins reconnaissante, monsieur. »«
Allons, allons, voilà tes scrupules, Geneviève, » dit Henriette.
« C'est ridicule, ma chère. Comment tu ne peux pas venir avec nous quand les demoiselles Marteau y viennent ?»
« Ces demoiselles, lui dit tout bas Geneviève, sont sous la garde de leurs frères.
Eh mon Dieu, dit tout haut Henriette, tu seras sous la mienne. Ne suis-je pas une fille majeure, établie, maîtresse de ses actions? Y a-t-il, n'importe où, n'importe qui, assez mal appris pour me regarder de travers? Est-ce qu'on ne se garde pas soi-même d'ailleurs? « Tu es ennuyeuse, Geneviève, toi qui pourrais être si gentille. Allons, tu viendras, ma petite. Mesdemoiselles, venez donc la décider. »«
Oh oui, oui, Geneviève, tu viendras, » dirent toutes les petites filles. « Nous n'irons pas sans toi. »
Justine, l'aînée des filles de la maison, passa son bras sous celui de Geneviève en lui disant « Je vous en prie, ma chère, venez-y. » Et elle ajouta, en se penchant à son oreille, « Vous savez que je ne puis causer qu'avec vous. »«
Eh bien, j'irai, » dit Geneviève toute confuse, « puisque vous le voulez absolument. »«
Comme vous êtes aimable, » dit Justine.
« Oh, ne vous y fiez pas, » s'écria Henriette. « Voilà comme elle fait toujours. Elle promet pour se débarrasser des gens. » Et au moment de partir, elle trouve 1000 prétextes pour rester. C'est une menteuse. Faites-lui donner sa parole d'honneur.
« Allez-y, mon enfant, » dit Madame Marteau à Geneviève. « Je ne puis y aller, sans cela je vous accompagnerai. Mais si vous êtes obligeante, vous me remplacerez auprès de mes petites. Joseph est un grand fou. Ces demoiselles-là sont un peu étourdies. Elles s'amuseront, elles danseront, et elles feront bien. Mais pendant ce temps, les petites filles pourraient bien se jeter dans ce vilain château fondu. Vous, Geneviève, qui êtes sage et sérieuse comme une petite maman, vous les surveillerez, et je vous en saurai tout le gré possible.
Cela me décide tout à fait, répondit Geneviève. J'irai, ma chère dame.
Mesdemoiselles, je vous en donne ma parole d'honneur.
« Oh, quel bonheur !» s'écrièrent les petites marteaux. « Tu joueras avec nous, Geneviève. Tu nous feras des couronnes de marguerite et des paniers de joncs, n'est-ce pas ?»«
un instant, » dit Joseph. « Combien serons-nous ?
9 femmes, André et moi. Je ne peux mettre tout ce monde-là dans ma patache. Il faut nous mettre en quête d'une seconde voiture. »
« Mon père a un char à banc qu'il nous prêtera volontiers, » dit André.
« À la bonne heure, voilà qui est convenu, » reprit Joseph. « Tu iras coucher ce soir chez toi et tu seras revenu ici de grand matin avec ton équipage. Très bien. Maintenant, préparons-nous à nous amuser demain en nous amusant aujourd'hui. Voulez-vous danser ? Voulez-vous jouer au bar, à cache-cache, au petit paquet ?»«
Dansons, dansons !» crièrent les jeunes filles.
Joseph tira sa flûte de sa poche, grimpa sur des gradins de pierre couverts d'hortensias et se mit à jouer, tandis que ses sœurs et les grisettes prirent place sous les lilas. André mourait d'envie d'inviter Geneviève. C'est pourquoi il ne l'osa pas et s'adressa à Henriette, qui fut assez fière d'avoir accaparé le seul danseur de la société. Néanmoins, guidée par un regard de Joseph, elle entraîna son cavalier vis-à-vis de Geneviève, qui avait pris pour danseuse la plus petite des demoiselles Marteau. Geneviève rougit beaucoup quand il fut question de toucher la main d'André. C'était la première fois de sa vie que pareille chose lui arrivait. Mais elle prit courageusement son parti et montra une gaieté douce qu'elle n'aurait pas espérée d'elle-même si elle eût prévu une heure auparavant qu'elle dût sortir à ce point de ses habitudes.
« Eh bien, savez-vous une chose ?» s'écria Joseph à la fin de la contredanse.
« C'est que mademoiselle Geneviève passe pour ne pas savoir danser. »«
Oui, mademoiselle, il y a dans la ville 20 mauvaises langues qui disent qu'elle a ses raisons pour ne pas aller au bal. »
« Eh bien, moi, je vous le dis, je n'ai jamais vu si bien danser de ma vie. »«
Et cependant, mademoiselle Henriette, il n'y a pas beaucoup de prévôts qui puissent vous en remonter. »
Geneviève devint rouge comme une fraise, et Henriette, s'approchant de Joseph, lui dit
« Taisez-vous, vous allez la mettre en fuite. C'est un mauvais moyen pour l'apprivoiser que de faire attention à elle. »
« allons donc !» dit Joseph à voix basse en ricanant.
« Un petit compliment ne fait jamais de peine à une fille. Quand je vous dis, par exemple, que vous voilà jolie comme un ange, vous ne pouvez pas vous en fâcher, car vous savez bien que je le pense. »
« Vous êtes un diseur de rien, » répondit Henriette, gonflée d'orgueil et de contentement.
Cette fois, André osa inviter Geneviève, mais il la fit danser sans pouvoir lui dire un mot. À chaque instant, la parole expirait sur ses lèvres. Il craignait de manquer d'esprit. Son cœur battait et il perdait la tête. Lorsqu'il avait affaire un avant d'eux, il ne s'en apercevait pas et laissait son vis-à-vis aller tout seul. Puis, tout à coup, il s'élançait pour réparer sa faute, dansait une autre figure et embrouillait toute la contredanse, aux grands éclats de rire des jeunes filles.
Geneviève seule ne se moquait pas de lui. Elle était silencieuse et réservée. Cependant, elle regardait André avec assez de bienveillance, car il avait bien parlé sur la botanique, et cela devait abréger de beaucoup les timides préliminaires de leur connaissance. Mais si André avait osé se mêler à la conversation et s'adresser à elle d'une manière générale, il n'en était plus de même lorsqu'il s'agissait de lui dire quelques mots directement. Cette excessive timidité diminuait d'autant celle de Geneviève, car elle était fière et non prude. Elle craignait les grosses fadeurs qu'elle entendait adresser à ses compagnes, mais en bonne compagnie, elle se fût sentie à l'aise comme dans son élément. Il y a des natures choisies qui se développent d'elles-mêmes, et dans toutes ces positions où il plaît au hasard de les faire naître. La noblesse du cœur est, comme la vivacité d'esprit, une flamme que rien ne peut étouffer, et qui tend sans cesse à s'élever, comme pour rejoindre le foyer de grandeur et de bonté éternelle dont elle émane. Quels que soient les éléments contraires qui combattent ces destinées élues, elles se font jour, elles arrivent sans effort à prendre leur place, elles s'en font une au milieu de tous les obstacles. Il y a sur leur front comme un sceau divin, comme un diadème invisible qui les appelle à dominer naturellement les essences inférieures. On ne souffre pas de leur supériorité, parce qu'elles s'ignorent elles-mêmes. On l'accepte parce qu'elle se fait aimer. Telle était Geneviève, créature plus fraîche et plus pure que les fleurs au milieu desquelles s'écoulait sa vie. On dit que la poésie se meurt. La poésie ne peut pas mourir. N'eût-elle pour asile que le cerveau d'un seul homme, elle aurait encore des siècles de vie, car elle en sortirait comme la lave du Vésuve, et ce frère est un chemin parmi les plus prosaïques réalités. En dépit de ces temples renversés et des faux dieux adorés sur leurs ruines, elle est immortelle, comme le parfum des fleurs et la splendeur des cieux. Exilée des hauteurs sociales, répudiée par la richesse, bannie des théâtres, des églises et des académies, elle se réfugiera dans la vie bourgeoise. Elle se mêlera aux plus naïfs détails de l'existence. Lasse de chanter une langue que les grands ne comprennent pas, elle ira murmurer à l'oreille des petits des paroles d'amour et de sympathie. Et déjà n'est-elle pas descendue sous les ventes des tavernes allemandes? Ne s'est-elle pas assise aux rouées des femmes? Ne berce-t-elle pas dans ses bras les enfants du pauvre? Compte-t-on pour rien toutes ces âmes aimantes qui la possèdent et qui souffrent, qui se taisent devant les hommes et qui pleurent devant Dieu? Voix isolée qui enveloppe le monde d'un cœur universel et se rejoignent dans les cieux. Étincelles divines qui retournent à je ne sais quel astre mystérieux. Peut-être à l'antique Phébus, pour en redescendre sans cesse sur la terre et l'alimenter d'un feu toujours divin. Si elle ne produit plus de grands hommes, n'en peut-elle pas produire de bons? Qui sait si elle ne sera pas la divinité douce et bienfaisante d'une autre génération, et si elle ne succédera pas au doute et au désespoir dont notre siècle est atteint? Qui sait si dans un nouveau code de morale, dans un nouveau catéchisme religieux, le dégoût et la tristesse ne seront pas flétris comme des vices, tandis que l'amour, l'espoir et l'admiration seront récompensés comme des vertus? La poésie, révélée à toutes les intelligences, serait un sens de plus que tous les hommes, peut-être, sont plus ou moins capables d'acquérir, et qui rendrait toutes les existences plus étendues, plus nobles et plus heureuses. Les mœurs de certaines tribus montagnardes le prouvent avec une évidence éclatante. La nature, il est vrai, prodigue de grands spectacles dans de telles régions. C'est chargé de l'éducation de ces hommes. Mais les chants des bardes sont descendus dans les vallées, et les idées poétiques peuvent s'ajuster à la taille de tous les hommes. L'un porte sa poésie sur son front, un autre dans son cœur. Celui-ci la recherche dans une promenade lente et silencieuse au sein des plaines, celui-là la poursuit au galop de son cheval à travers les ravins. Un troisième l'arrose sur sa fenêtre dans un pot de tulipes. Au lieu de demander où elle est, ne devrait-on pas demander où elle n'est pas? Si ce n'était qu'une langue, elle pourrait se perdre, mais c'est une essence qui naît de deux choses, la beauté répandue dans la nature extérieure et le sentiment départi à toute intelligence ordinaire. Pour condamner à mort la poésie et la porter au cercueil, il nous faudra donc arracher du sol jusqu'à la dernière des fleurettes dont Geneviève faisait ses bouquets. Car elle aussi était poète, et croyez bien qu'il y a au fond des plus sombres masures, au sein des plus médiocres conditions, beaucoup d'existences qui s'achèvent sans avoir produit un sonnet, mais qui pourtant sont de magnifiques poèmes. Il faut bien peu de choses pour éveiller ces esprits endormis dans l'épaisse atmosphère de l'ignorance, et pour les entourer à jamais d'une lumineuse auréole qui ne les quitte plus. Un livre tombé sous la main, un chant ou quelques paroles recueillies d'un passant, une étude entreprise dans un dessin prosaïque ou par nécessité, le moindre hasard providentiel suffit à une âme élue pour découvrir un monde d'idées et de sentiments. C'est ce qui était arrivé à Geneviève. L'art frivole d'imiter les fleurs l'avait conduite à examiner ses modèles, à les aimer, à chercher dans l'étude de la nature un moyen de perfectionner son intelligence. Peu à peu, elle s'était identifiée avec elle, et chaque jour, dans le secret de son cœur, elle dévorait avidement le livre immense ouvert devant ses yeux. Elle ne songeait pas à approfondir d'autres sciences que celles à laquelle tous ses instants étaient forcément consacrés. Mais elle avait surpris le secret de l'universelle harmonie. Ce monde inanimé qu'autrefois elle regardait sans le voir, elle le comprenait désormais. Elle le peuplait d'esprits invisibles, et son âme s'y élançait pour y embrasser sans cesse l'amour infini qui plane sur la création. Emportée par les ailes de son imagination toute puissante, elle apercevait, au-delà des toits enfumés de sa petite ville, une nature enchantée qui se résumait sur sa table dans un bouton d'aubépine. Un chardonneret familier qui voltigeait dans sa chambre lui apportait du dehors toutes les mélodies des bois et des prairies. Et lorsque sa petite glace lui renvoyait sa propre image, elle y voyait une ombre divine si accomplie qu'elle était émue sans savoir pourquoi et versait des pleurs délicieux, comme à l'aspect d'une sœur jumelle. Elle s'était donc habituée à vivre en dehors de tout ce qui l'entourait. Ce n'était pas, comme on le prétendait, une vertu sauvage et sombre. Elle était trop calme dans son innocence pour avoir jamais cherché sa force dans les maximes farouches. Elle n'avait pas besoin de vertu pour garder sa saine pudeur, et le noble orgueil d'elle-même suffisait à la préserver des hommages grossiers que recherchaient ses compagnes. Elle les fuyait, non par haine, mais par dédain. Elle ne craignait pas d'y succomber, mais d'en subir le dégoût et l'ennui. Heureuse avec sa liberté et ses occupations, orpheline, riche par son travail au-delà de ses besoins, elle était affable et bonne avec ses amis d'enfance. Elle eut craint de leur paraître vaine de son petit savoir, et se laissait égayer par elle. Mais elle supportait cette gaieté plutôt qu'elle ne la provoquait, et si jamais elle ne leur donnait le moindre signe de mépris et d'ennui, du moins son plus grand bonheur était de se retrouver seule, dans sa petite chambre, et de faire sa prière en regardant la lune et en respirant les jasmins de sa fenêtre. Chapitre 6. André avait un peu trop compté sur ses forces, en se chargeant de demander le char à banc et le cheval de son père. Il fit cette pénible réflexion en quittant, vers 9 heures, la famille Marteau. Et son anxiété prit un caractère de plus en plus grave à mesure qu'il approchait du toit paternel. Mais ce fut une bien autre consternation lorsqu'il trouva son père dans un de ses accès de mauvaise humeur des plus prononcés. Le plus beau de ses bœufs de travail était tombé malade en rentrant du pâturage, et le marquis, se promenant d'un air sombre dans la salle basse de son manoir, répétait d'une voix entrecoupée, en jetant des regards effarés sur son fils, « des tranchées épouvantables !»« Hélas, mon père, êtes-vous malade ?» s'écria André, qui ne comprenait rien à son angoisse. Le marquis haussa les épaules et, lui tournant le dos, continua à marcher à grands pas. André, n'osant renouveler sa question, resta fort troublé à sa place, suivant d'un œil timide tous les mouvements de son père, qu'il croyait atteint de vives souffrances. Enfin, le marquis, s'arrêtant tout à coup, lui dit d'une voix brusque « Quel a été l'effet de la thériaque ?» André, rassuré et comprenant à demi, courut vers la porte en disant qu'il allait le demander. « Non, non, j'irai bien moi-même, » reprit vivement le marquis. « Restez ici, vous n'êtes bon à rien, vous. » André attendit pendant 1 heure le retour de son père, espérant trouver un moment plus favorable pour lui présenter sa demande. Mais il attendit vainement. Le marquis passa la moitié de la nuit dans l'étable avec ses laboureurs, frictionnant le triste vermeil, c'était le nom de l'animal, et lui administrant toutes sortes de potions. André se hasarda plusieurs fois de s'informer de la santé du malade, et, partant, de l'humeur de son père. Mais lorsque le malade commença à se trouver mieux, le marquis, accablé de fatigue et gardant sur ses traits l'empreinte des soucis de la journée, ne songea plus qu'à se reposer. Il rencontra André sous le péristyle de la maison et lui dit avec la rudesse accoutumée de son affection « Pourquoi n'êtes-vous pas couché, gringalet? Est-ce qu'on a besoin de vous ici? Allons, vite, que tout le monde dorme, je tombe de sommeil. » C'était peut-être la meilleure occasion possible pour obtenir le cheval et le char à banc. Mais André avait l'enfantillage de souffrir des mots grossiers ou communs que lui adressait souvent son père, et il prenait alors une sorte d'humeur qui le réduisait au silence. Il alla se coucher en proie aux plus vives agitations. Le lendemain devait être à ses yeux le jour le plus important de sa vie. Et pourtant, sans le cheval et le char à banc, tout était manqué, perdu, sans retour. Il ne put dormir. Il fallait partir le lendemain avant le jour. Comment oserait-il aller trouver son père au milieu de son sommeil, affronter ce réveil en sursaut, si fâcheux chez les hommes replets, s'exposer peut-être à un refus? Cette dernière pensée fit frémir André. « Ah ! Plutôt mourir victime de sa colère, s'écria-t-il, que de manquer à ma parole et perdre le bonheur de passer un jour auprès de Geneviève. » Dès que 3 heures sonnèrent, il se rhabilla, et, prenant sa désobéissance furtive pour un acte de courage, il attela lui-même le gros cheval au char à banc, et partit sans bruit, grâce au fumier dont la basse-cour était garnie. Mais le plus difficile n'était pas fait. Il fallait tourner autour du château et passer sous les fenêtres du marquis. Impossible d'éviter ce terrible défilé. Le chemin était sec et le mur du château sonore. Le char à banc, rarement graissé, criait à chaque tour de roue d'une manière déplorable. Et les larges sabots du gros cheval allaient avec maladresse sonner contre toutes les pierres du chemin. André était tremblant comme les feuilles du peuplier qu'agitait le vent du matin. Heureusement, il faisait encore sombre. Si son père, en proie à une de ces insomnies auxquelles sont sujets les propriétaires, était par hasard à sa fenêtre, il pourrait bien ne pas reconnaître son char à banc. Mais il avait l'oreille si fine, si exercée, il connaissait si bien l'allure de son cheval et le son de ses roues. André prit le parti de payer d'audace. Il fouetta le cheval si vigoureusement qu'il le força de galoper. C'était une allure inouïe pour le paisible animal. Et M. Morand l'entendit passer sans rien soupçonner et sans quitter la douce chaleur de son lit. Lorsqu'André fut à 500 pas du manoir, il osa se retourner. Et voyant derrière lui la route qui commençait à blanchir et qui était nue comme la main, il éprouva un bien-être inexprimable et permit à son coursier de modérer son allure. À 7 heures du matin, le cheval avait eu le temps de se rafraîchir, et le char à banc, avec André le fouet en main, était à la porte de Madame Marteau. Joseph attelait sa carriole, et les voyageuses arrivaient, une à une, dans leur plus belle toilette des dimanches, mais les yeux encore un peu gros de sommeil. On perdit bien 1 heure en préparatifs inutiles. Enfin, Joseph régla l'ordre de la marche, et il prétendit que la volonté de sa mère était de confier les demoiselles Marteau à André et à Geneviève, comme au plus grave de la société. Quant à lui, il se chargeait d'Henriette et de ses ouvrières. Et, pour prouver qu'on avait raison de le regarder comme un écervelé, il descendit au triple galop l'horrible pavé de la ville. Ses compagnes firent des cris perçants. Tous les habitants mirent la tête à la fenêtre et envièrent le plaisir de cette joyeuse partie. André descendit la rue plus prudemment et savoura le petit orgueil d'exciter une grande surprise. « Quoi, Geneviève ? » disaient tous les regards étonnés. « Oui, Geneviève, avec Monsieur Morand. Ah, mon Dieu ! Et pourquoi donc ? Et comment ? Savez-vous depuis quand ? Juste ciel ! Comment cela finira-t-il ? » Geneviève, sous son voile de gaze blanche, s'aperçut aussi de tous ces commentaires. Elle était trop fière pour s'en affliger. Elle prit le parti de les dédaigner et de sourire. Peu à peu, André s'enhardit jusqu'à parler. Mademoiselle Marteau, l'aînée, était une bonne personne, assez laide, mais assez bien élevée, avec laquelle il aimait à causer. Peu à peu, aussi, Geneviève se mêla à la conversation, et ils étaient presque tous à l'aise en arrivant au château fondu. Heureusement pour lui, André avait étudié avec assez de fruit les sciences naturelles, et il pouvait apprendre bien des choses à Geneviève. Elle l'écoutait avec avidité. C'était la première fois qu'elle rencontrait un jeune homme aussi distingué dans ses manières et riche d'une aussi bonne éducation. Elle ne songea donc pas un instant à s'éloigner de lui et à s'armer de cette réserve qu'elle conservait toujours avec Joseph. Il lui était bien facile de voir qu'elle n'en avait pas besoin avec André et qu'il ne s'écarterait pas un instant du respect le plus profond. La matinée fut charmante. On cueillit des fleurs, on dansa au bord de l'eau, on mangea de la galette chaude dans une métairie. Tout le monde fut gai, et Mademoiselle Henriette fut enchantée de voir Geneviève aussi bonne enfant. Cependant, lorsque l'après-midi s'avança, Joseph fit observer que le besoin d'un repas plus solide se faisait sentir, qu'on avait assez admiré le château fondu, et qu'il était convenable de chercher un dîner et une autre promenade dans les environs. André tremblait en songeant au voisinage du château de son père et à l'orage qui l'y attendait, lorsque Joseph mit le comble à son angoisse en s'écriant « Eh, parbleu, le château de notre ami André est à deux pas d'ici. Le père Morand est le meilleur des hommes. C'est mon ami intime. Il nous recevra à merveille. Allons lui demander un dindon rôti et du vin de sa cave. André, montre-nous le chemin et passe devant nous pour nous faire les honneurs. » André se crut perdu. Mais comme tous les gens faibles, qui n'osent jamais s'arrêter et s'embarquent toujours dans de nouvelles difficultés, il se résigna à braver toutes les conséquences de sa destinée et remonta en voiture avec Geneviève et ses compagnes. Cependant, à mesure qu'il approchait des tourelles héréditaires, une sueur froide se répandait sur tous ses membres. Dans quelle colère il allait trouver le marquis! Car l'enlèvement du cheval et du char à banc devait, depuis plusieurs heures, causer dans la maison un scandale épouvantable. Et le marquis était incapable, pour quelque raison humaine que ce fût, de sacrifier aux convenances le besoin d'exhaler sa colère. Quel accueil pour Geneviève, qu'il eût voulu recevoir à genoux dans sa demeure! Et quelle mortification pour lui d'être traité devant elle comme un écolier pris en fraude! Il arrêta son cheval à deux portées de fusil de la maison et descendit. Il s'approcha de la patache, pria Joseph de descendre aussi, et, l'emmenant à quelque distance, il lui confia son embarras.
« Ouais, » dit Joseph, « ce vieux renard est-il sournois à ce point-là, lui qui fait semblant d'être si bon homme? Mais ne crains rien, personne, fût-ce le diable, n'osera jamais regarder de travers celui qui s'appelle Joseph Marteau. Monte dans ma voiture et donne-moi le fouet du char à banc. Je passe le premier et je prends tout sur moi. »
En effet, Joseph fouetta d'une main arrogante les flancs respectables du cheval du marquis et il fit une entrée triomphale dans la cour du château. Le marquis était précisément à la porte de l'écurie. Depuis que l'événement terrible était découvert, le marquis n'avait pas quitté la place. Il attendait son fils pour le recevoir à sa manière. De minute en minute, sa fureur augmentait. Et il se formait en lui un trésor d'injures qui devait mettre plus d'un jour à s'épuiser. Lorsque, au lieu de la timide figure d'André sur le siège de sa voiture, il vit la mine fière et décidée de Joseph, il recula de trois pas. Et avant qu'il eût articulé une parole, Joseph, lui sautant au cou, l'embrassa si fort qu'il faillit l'étouffer. « Vive Dieu !» s'écria le gai campagnard. « Que je suis heureux de revoir mon cher marquis. Il y a plus de 6 semaines que j'ai le projet de vous amener ma famille. Mais les femmes sont si longues à se décider pour la moindre chose. Enfin, je n'ai pas voulu marier ma grande sœur sans vous la présenter. La voilà, cher marquis. Ah, il y a longtemps qu'elle entend parler de vous et de votre beau château, et de votre grand jardin, et de vos étables, les mieux tenues du pays. » « Ma sœur est une bonne campagnarde qui s'entend à toutes ces choses-là. Et puis, voilà les petites. 1, 2, 3. Allons, mesdemoiselles, faites la révérence. Marie, essuie les pruneaux que tu as sur la joue et va embrasser monsieur le marquis. Ah, c'est que c'est un fier papa que le marquis. Demande-lui des dragées, il en a toujours plein ses poches. Ah, ça, cher voisin, vous voyez que j'avais une fière envie de venir vous voir. Dès 3 heures du matin, j'étais dans la chambre d'André. C'était une partie arrangée depuis hier avec ces demoiselles. Elles en grillaient d'envie. Moi qui sais que vous êtes le plus galant homme et l'homme le plus galant de France, je voulais vous les amener toutes, car en voilà encore 5 ou 6 qui ne sont pas mes sœurs, mais qui n'en valent pas moins, et qui voulaient à toute force voir votre propriété. C'est une si belle chose. Il n'est question que de ça dans le pays. Or, je suis venu ce matin pour vous demander votre voiture, votre cheval et votre fils. André m'a répondu que vous dormiez encore, que vous étiez fatigué de la veille. Je n'ai jamais voulu souffrir qu'on vous éveillât pour si peu de choses. Je n'ai même voulu déranger personne. J'ai attelé moi-même le cheval et j'ai emmené votre fils, malgré lui, car c'est un paresseux. Et à propos, comment se porte le bœuf malade? Mieux? Ah, j'en suis charmé. Voilà donc comment j'ai enfin réussi à vous amener à dîner toutes ces petites alouettes. J'étais bien sûr que vous m'en remercierez. Ce marquis est l'homme le plus aimable du département. Allons, mesdemoiselles, n'ayez pas de honte. Dites à monsieur le marquis comme vous aviez envie de venir le voir. Le marquis, tout étourdi d'un pareil discours et de l'apparition de toutes ces jeunes et jolies figures qui semblaient se multiplier par enchantement à chaque période de Joseph, ne put trouver de prétexte à son ressentiment. La demande inopinée d'un dîner ne le contraria pas trop. Il était honorable, et en effet il avait des prétentions à la galanterie. Il prit le parti d'offrir un bras à mademoiselle Marteau et l'autre à Geneviève, qu'à sa jolie tournure il prit pour une personne de la meilleure société. Et, priant poliment les autres de le suivre, il les conduisit à la salle à manger, où, en attendant le repas qu'il ordonna sur le champ, il leur fit servir des fruits et des rafraîchissements. André, charmé de voir les choses s'arranger aussi bien, prit courage et fit lui-même les honneurs de la maison avec beaucoup de grâce. Son père le laissa faire, quoiqu'il jetât sur lui de temps en temps un regard de travers. Le hobereau n'était point avare et voulait bien offrir tout ce qu'il possédait, mais il voulait le faire lui-même et ne pouvait souffrir qu'un autre, fût-ce son propre fils, touchât une fleur sans sa permission. André conduisit Geneviève à un petit jardin botanique qu'il cultivait dans un coin du grand verger de son père. Geneviève prit tant d'intérêt à ses fleurs et aux explications d'André qu'elle oublia tout le reste et s'aperçut en rougissant, lorsque la cloche du dîner sonna, qu'elle était seule avec lui, que le reste de la société était bien loin dans le fond du verger. L'affabilité du marquis se soutint assez bien pendant tout le temps du dîner. Même au dessert, il s'égaya jusqu'à adresser quelques lourdes fadeurs aux beaux yeux d'Henriette et aux jolies petites mains blanches de Geneviève. Joseph était un convive excellent, un vigoureux buveur, capable de tenir tête à toute une noce depuis midi jusqu'à 3 heures du matin, et jamais maussade après boire, point querelleur, point casseur d'écuelle, incapable de méconnaître ses amis dans l'ivresse. Il se conduisit si bien cette fois, et sans cesser d'être aux petits soins pour les dames, il fit si bien fête au petit vin de la Côte Moran, que le marquis sortit de table la joue enluminée, l'œil brillant et la mâchoire lourde. Joseph croyait avoir triomphé de sa colère, et s'applaudissait intérieurement de son habileté. Mais André, qui connaissait mieux son père, augurait moins bien de cet état d'excitation. Il savait que jamais le marquis n'avait une clairvoyance plus implacable que dans ces moments-là. Il l'observait donc avec inquiétude et s'observait lui-même scrupuleusement, dans la crainte de dire un mot ou de faire un geste qui réveilla les souvenirs confus du cheval et du char à bancs enlevés. Le marquis jusque-là ne comprenait pas trop clairement en quelle société Joseph et ses sœurs étaient venus le voir. La vérité est qu'il n'avait aucun préjugé, qu'il était poli et hospitalier envers tout le monde. Mais il avait une aversion invincible pour les grisettes. Il fallait que ce sentiment eût acquis chez lui une grande violence, car il était combattu par une habitude de courtoisie envers le beau sexe et la prétention de n'être pas absolument étranger à l'art de plaire. Mais autant il aimait à accueillir gracieusement les personnes des deux sexes qui reconnaissaient humblement l'infériorité de leur rang, autant il haïssait dans le secret de son cœur celles qui traitaient de père à compagnon avec lui, sans daigner lui tenir compte de son affabilité et de ses manières libérales. Il consentait à être le meilleur bourgeois du monde, pourvu qu'on n'oubliât point qu'il était marquis et qu'il ne voulait pas le paraître. Les artisanes de L, avec leur jactance, leurs privilèges et leur affectation de familiarité, étaient donc nécessairement des natures antipathiques à la sienne. Et il est très vrai qu'il les souffrait difficilement dans sa maison. Il ne pouvait supporter qu'elles s'arrogeassent le droit de s'asseoir à sa table sans son aveu. Et il ne manquait pas, lorsque sa salle à manger était envahie par ses usurpateurs féminins, de leur céder la place et d'aller au champ. Ce procédé lui avait aliéné la considération des grisettes les plus huppées, d'autant plus qu'elle voyait fort bien l'adjoint de la commune, personnage revêtu d'une blouse et d'une paire de sabots, et même le garde-champêtre, dignitaire plus modeste, encore admis à l'honneur de boire un verre de vin et de s'asseoir sur un escabeau lorsqu'ils apportaient des nouvelles à l'heure où le marquis finissait son souper. Cette préférence envers des paysans leur paraissait l'indice d'un caractère insolent et bas, tandis qu'elle était au contraire le résultat d'un orgueil très bien raisonné. Quoiqu'Henriette et ses ouvrières eussent été fort bien traitées cette fois, il leur restait un vieux levain de ressentiment contre les manières habituelles du marquis envers leurs pareils. La présence de Mademoiselle Marteau, les manières douces d'André, le maintien grave et poli de Geneviève leur avaient un peu imposé pendant le dîner. Aussi, en sortant de table, leur nature bruyante et indisciplinée reprenant le dessus, elles se répandirent dans le verger en caracolant comme des cavales débridées et, sautant sur les plates-bandes, écrasant sans pitié les marguerites et les tomates, elles remplirent l'air de chants plus gais que mélodieux et de rires qui sonnèrent mal à l'oreille du marquis. Celui-ci laissa André auprès de Geneviève et de Mesdemoiselles Marteau, et, tandis que Joseph prenait sa course de son côté pour aller embrasser Mademoiselle Henriette à la faveur d'un jour consacré à la folie, il longea furtivement le mur où ses plus beaux espaliers étendaient leurs grands bras chargés de fruits sur un treillage vert pomme, et monta la garde autour de ses pêches et de ses raisins. Henriette s'en aperçut. Et, décidée à déployer ce grand caractère d'audace et de fierté dont elle tirait gloire, elle coupa le potager en droite ligne et vint à 30 pas du marquis remplir lestement son tablier des plus beaux fruits de l'espalier. À son exemple, les grisettes s'élancèrent à la maraude et firent main basse sur le reste. Ce qui acheva d'enflammer le marquis d'une juste colère, c'est qu'au lieu de détacher de l'arbre le fruit qu'elle voulait emporter, elle tirait obstinément la branche jusqu'à ce qu'elle cédât et leur restât à la main, toute chargée de fruits verts qu'elle jetait avec dédain au milieu des allées après y avoir enfoncé les dents. Moyennant ce procédé aristocratique, au lieu d'une douzaine de pêches et d'autant de grappes de raisins qu'elles eussent pu enlever, elles trouvèrent moyen de mutiler tous les arbres fruitiers et de mettre en lambeaux ces belles treilles si bien suspendues, que le marquis lui-même avait courbé en berceau et qui faisait l'admiration de tous les connaisseurs. Le marquis eut envie de prendre une des branches cassées dont elles jonchaient le sable et de leur courir sus en les poursuivant comme des chèvres malfaisantes. Mais il vit la grande taille de Joseph se dessiner auprès d'Henriette et, quoique brave, il ne se soucia point d'engager avec lui une discussion qui pouvait devenir orageuse. D'ailleurs, il aimait Joseph, et voyait bien qu'il n'approuvait pas ce dégât. Il prit un parti plus sage et plus cruel. Il alla droit à l'écurie, fit sortir son cheval, attelait le char à banc, et conduire l'un et l'autre à 300 pas de la maison, dans une grange dont il prit la clé dans sa poche. Puis il revint d'un air calme et rentra dans le salon. Il n'y trouva personne. Mais la vengeance qui le protégeait lui fit apercevoir du premier coup d'œil 4 ou 5 grands bonnets de tulle et 2 ou 3 châles de barège étalés avec soin sur le canapé. Ces demoiselles avaient déposé là leurs atours pour courir plus à l'aise dans le jardin. Le marquis n'en fit ni une ni deux. Il s'étendit tout de son long sur les rubans et sur les dentelles, et ne manqua pas d'allonger ses grosses guêtres crottées sur le fichu de crêpe rose de Mademoiselle Henriette. Il attendit ainsi, dans un repos délicieux, que ces demoiselles eussent fini de dévaster son verger. Quand elles rentrèrent, elles trouvèrent en effet le malicieux campagnard qui feignait de dormir en écrasant les précieux chiffons. Elles le maudirent 1000 fois et prononcèrent, assez haut pour qu'il l'entendît, les mots de « vieil ivrogne ». « Fort bien !» disait Henriette d'un ton aigre. « Il faut de la dentelle à monsieur le marquis pour dormir en cuvant son vin. »« Ma foi !» disait Joseph en se pinçant le nez pour ne pas éclater de rire. « Je trouve la chose singulière et si drôle qu'il m'est impossible de m'en affliger. Vraiment, c'est dommage de réveiller ce bon marquis quand il dort si bien, l'aimable homme !» En parlant ainsi, Joseph secouait doucement la main du marquis. Celui-ci feignit longtemps de ne pouvoir se réveiller. Enfin, il se décida à quitter le canapé et à laisser les grisettes ramasser les débris de leur toilette. Dans quel état, hélas ! Henriette écumait de rage. Monsieur de Morand feignit de ne s'apercevoir de rien. Il prit le bras de Joseph et sortit sous prétexte de le mener à son pressoir. Mais sa véritable vengeance ne tarda pas à éclater. Le soleil était couché, on parla de retourner à la ville. L'appâtage de Joseph se trouva prête devant la porte aussitôt qu'il l'eut demandé. « Prends mes sœurs et Geneviève, dit Joseph à André, et monte dans ma patache. Je me charge des grisettes et du char à banc. Va, pars tout de suite, car si tu restes là et que ton père est de l'humeur, cela tombera sur toi. » tandis qu'il n'osera pas me faire de difficultés. Va-t'en vite !» André ne se le fit pas répéter. Il offrit la main à ses compagnes de voyage, prit les rênes et disparut. Il était à 500 pas que Joseph attendait encore le char à banc sur le seuil de la maison. Il avait glissé quelques monnaies dans la main du garçon d'écurie en lui disant d'amener son équipage. Mais l'équipage n'arrivait pas. Le garçon d'écurie ne se montrait plus et le marquis avait subitement disparu. Au bout d'un quart d'heure d'attente, Joseph prit le parti d'aller à l'écurie. Elle était vide. Il chercha le char à banc sous le hangar était désert. Il appelle, personne ne lui répond. Il parcourt la ferme et trouve enfin le garçon d'écurie qui semble accourir tout essoufflé, et qui lui répond avec toute la sincérité apparente d'un paysan astucieux. « Hélas, mon bon monsieur, il n'y a ni char à banc ni cheval. Le métayer est parti avec pour la foire de Saint-Denis qui commence demain matin. Il ne savait pas qu'on en aurait besoin au château. Monsieur le marquis lui avait dit hier de les prendre s'il en avait besoin. Qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qu'il pouvait prévoir ?»« 1000 diables !» s'écria Joseph. « Il est parti? Et depuis quand? Est-il bien loin ?»« Oh, monsieur !» dit le garçon en souriant d'un air piteux. « Il y a plus de 2 heures, il doit être à présent auprès de elle, s'il ne l'a point dépassé. »« Eh bien !» dit Joseph, « c'est une histoire à mourir de rire !» Et il alla rejoindre les grisettes sans s'affliger autrement d'un événement qui devait les transporter de colère. Henriette jeta les hauts cris. Elle refusa de croire au départ du métayer. Elle maudit mille fois la malice du marquis. Elle le chercha dans toute la maison pour lui faire des reproches, pour lui demander s'il n'avait pas un autre cheval et une autre voiture. Le marquis fut introuvable. Le garçon d'écurie se lamenta d'un air désespérant sur ce fâcheux contretemps. Enfin, il fallut prendre un parti. Le jour baissait de plus en plus, il fallut partir à pied et entreprendre, à l'entrée de la nuit, une promenade de 3 lieues, par des chemins assez rudes et avec des bonnets et des fichus en marmelade. Les grisettes pleuraient, et Henriette, en fureur, faisait de durs reproches à Joseph sur son insouciance. Celui-ci se résignait de bonne grâce à lui offrir son bras jusqu'à la ville. Elle le refusa, d'abord avec dépit, et l'accepta ensuite par lassitude. Elles s'en allèrent ainsi, clopin, clopant, se heurtant les pieds contre les cailloux et détestant dans leur âme l'abominable marquis, auteur de leur désastre, tandis que celui-ci, enfermé dans sa chambre et plongé dans le duvet, fredonnait en s'endormant un vieil air, à la mode peut-être dans sa jeunesse. « Allez-vous-en, gens de la noce !» etc.